Une première scène avec des corps ensanglantés gisant sur un sol enneigé. Puis un château médiéval apparaissant au loin dans une campagne boisée. La caméra plonge alors dans un trou de verdure. La musique rythme le mouvement jusqu'au fond de ce qui ressemble à un puits. Une jeune femme blessée se relève, désorientée, effrayée. Elle se glisse dans une entrave de pierre, la voilà dans une grotte, on y devine quelques meubles grâce aux bougies. De l'eau s'écoule, le son de son souffle se répercute sur les murs. Et puis, un bruit effrayant. Elle court vers une porte de bois, marquée par une ouverture en forme de croix. La lumière derrière cette porte, la vie, peut-être, mais une chaîne entrave la sortie.
Les livres d'histoire ne parlent jamais de Rebecca. Pourtant, comme un simple caillou peut détourner le cours d'un fleuve, son martyr a tout changé.
Bienvenue dans Sériland, zoom sur la série La Révolution et sur le mythe du vampire noble. Sériland, c'est le podcast qui vous raconte les séries par celles et ceux qui les aiment et les font. Je m'appelle Eva et je me nourris au quotidien de séries de tous les genres. Tel un vampire, je croque à plein dents dans ces histoires qui défilent sur mon écran. Certaines hantent mes jours et mes nuits. Alors quand une série historique, se déroulant à l'aube de la Révolution française, se mêle à un récit fantastique avec des êtres assoiffés de sang, mon cœur bat un peu plus vite à chaque nouvel épisode. La Révolution débarque sur Netflix et avec la résurrection d'un mythe, celui du vampire noble. Avec mon équipe de sérivores composée de Clémence, Margot, Patrick, notre voix, on a replongé dans ces histoires effrayantes. Pour l'occasion, nous avons invité Hugo Bimard à nous rejoindre, auteur, réalisateur. Il est notamment le fondateur d'une web-série très réussie intitulée « Confessions d'histoire ». Il a vu La Révolution et d'autres séries historiques qu'il souhaite nous conseiller. Et nous aussi, on a quelques pépites à vous recommander.
Sériland, épisode 12.
Pour commencer, il fallait mettre au point une question fondamentale concernant la nouvelle série française disponible sur Netflix, La Révolution. Nous sommes en 1787, Joseph Guillotin, qui a fait adopter la guillotine comme moyen d'exécution pendant la Révolution française, enquête sur une série de meurtres mystérieux. Pendant que la révolte du peuple gronde, il découvre un nouveau virus, le sang bleu, une maladie qui se propage au sein de l'aristocratie et transforme les nobles en des bêtes assoiffées de sang. Mais alors, série historique ou série fantastique ? La parole est à Hugo Bimard.
Bonjour. Ah, eh bien écoutez, je crois que d'après le pitch que vous venez de produire, là, la réponse, elle est vite vue, hein, c'est une série fantastique. C'est une série que les auteurs qualifient d'ailleurs d'uchronique.
Oui.
On ne sait pas encore jusqu'où cette uchronie va aller. On ne sait pas d'ailleurs si l'uchronie prend place avant le début de la série, c'est une possibilité. On verra peut-être avec l'avis un peu plus géopolitique à Versailles si on est dans une configuration différente de ce qu'on connaît nous de l'histoire. Soit c'est une véritable uchronie où les événements sont amenés à changer par rapport à la Révolution française, soit c'est cette vieille idée de guerre secrète, d'explication ésotérique des événements. C'est quelque chose qu'on voit dans Assassin's Creed, dans le jeu vidéo.
Ah bon, on va en reparler, voilà, effectivement. Oui.
Et qu'on a vu aussi dans pas mal de bandes dessinées ou de séries, de bouquins, à savoir qu'il y a une explication autre que celle que les livres d'histoire fournissent aux événements.
En tout cas, c'est vendu comme ça. La série est vendue comme ça. Peut-être que c'est un mélange des deux. On va peut-être savoir ça au cours de la deuxième saison, parce qu'effectivement, la première saison se termine au bout de 8 épisodes et on sent qu'il va se passer quelque chose. Margot, vous êtes avec nous aujourd'hui et vous êtes à peu près d'accord avec moi sur la fin de cette première saison.
Oui, on attend la suite.
C'est un peu en suspens. Je vous propose d'écouter un extrait dans lequel un des héros, Albert Guillotin, revenu d'Amérique, doit faire face à des passeurs, des hommes armés. Il est très affaibli au départ et puis tout d'un coup, son corps va se modifier. Il va se révéler être un monstre de puissance. Moi, j'ai été à la fois très surprise de cette entame du deuxième épisode et en même temps assez fascinée.
Ton nom ? Albert, ton nom de famille ? Ça a de la valeur.
Touche pas.
La foi. Lâche-moi.
Ah.
Les petits craquements que vous venez d'entendre sont le corps d'Albert Guillotin qui est en train de se transformer tel un loup-garou. Hugo Bimard, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène qui ressemble à une scène qu'on pourrait voir dans un jeu vidéo ? Vous parliez d'Assassin's Creed, c'est un peu ça.
Oui, un petit peu. Moi, ce qui m'a fait surtout réagir, c'est que cette scène, je pense qu'elle fait appel à ce à quoi on assiste de nos jours avec les migrants et les passeurs. Parce que c'est exactement ce type de scène. On est sur une plage déserte, donc clairement c'est quelque chose, c'est pas des gens qui débarquent dans un port, ils débarquent à l'écart de la civilisation, et ils ont un groupe de personnes en fuite, clairement. Peut-être esclaves, échappés, on sait pas trop à ce moment-là. Mais donc sur cette plage déserte, on a ces passeurs qui font débarquer ces gens, et il y en a un qui leur tient tête, et ben leur éclate la mouille. Et c'est quelque chose d'assez jouissif, parce que quand on entend parler de ces histoires de passeurs, on fantasme l'idée qu'il y en ait un qui se rebelle et qui mette fin à la vie de ces bourreaux. Ça joue là-dessus, et la scène est assez réussie, c'est d'ailleurs... ça fait partie du haut du panier, on va dire, dans les scènes de cette série.
Et je suis assez d'accord avec vous, d'autant que c'est ce qui est assez intéressant dans cette série aussi, c'est qu'en filigrane, il est question aussi quand même de notre société d'aujourd'hui. On y reviendra un peu plus tard, mais effectivement, il y a ces thèmes d'actualité, il y a aussi la confrontation entre la science et la croyance qui revient régulièrement au cours de cette série. C'est définitivement une série post-Covid, on va en reparler avec l'histoire du virus. Mais Margot, toi, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marquée particulièrement aussi ?
Oui, alors moi c'est la scène à la fin de l'épisode 4 où on a un personnage qui s'appelle Donatien, qui apparaît pas beaucoup en fait avant cette scène-là, qui là se transforme lui aussi.
C'est un noble, hein, en
l'occurrence. C'est un noble, tout à fait. Et en fait, il arrive dans une pièce avec d'autres nobles. Et alors déjà, je trouve la mise en scène assez réussie aussi, parce qu'en fait, il arrive découpé en morceaux. On le voit en ombre chinoise, puis juste ses pieds, puis juste son dos. Et puis la musique sur cette scène est très réussie, parce qu'en fait, c'est la sarabande d'Handel, mais qui très vite va être complètement déformée, va devenir très grinçante. La musique, c'est celle de Seyssette, c'est un compositeur de musique électro-français. Et je trouve qu'en fait, cette scène, elle résume bien la série qui est de prendre l'histoire, mais toujours de la tordre un petit peu. Et là, et la mise en scène et la musique accompagnent bien cet esprit-là.
Musique omniprésente, un peu comme dans les jeux vidéo, oui. On est d'accord.
Un peu ouais. Trop.
Un peu trop, on est d'accord. Tous les trois, je pense que bon même son, sur des parties dialoguées, voilà, c'est ouais. Un peu... C'est
tout le temps.
Un petit peu dommage. D'où vient ce mythe du vampire noble, Hugo Bimard, qui transparaît en fait quand même tout au long de cette série La Révolution ?
Ah ben en fait, le vampire, il est associé à la noblesse dès l'origine, puisque on sait bien que voilà, la principale inspiration de Bram Stoker, c'était Vlad dit l'Empaleur, Tepes, Vladislav III, prince de Malachie. Et donc voilà, c'est dans la noblesse, dès le départ, que s'inscrit ce mythe-là.
Va donner lieu à Dracula,
voilà,
pour expliquer.
Voilà, Bram Stoker, voilà, c'est Dracula, ça vient de là, ça vient de Vlad l'Empaleur. Et bon, il y a d'autres personnages comme ça dans l'histoire qui ont pu inspirer et se rallier à ce mythe du buveur de sang. Alors on pense aussi beaucoup à la comtesse Elisabeth Báthory.
Alors moi que je ne connaissais pas, mais vous m'en avez parlé en préparant cette émission. Et donc j'ai découvert La Comtesse Sanglante, c'est comme
voilà,
ça qu'on l'appelle.
Tout à fait, il y a un film d'ailleurs de Julie Delpy qui s'appelle La Comtesse, qui parle de ça. C'est un personnage historique dont on suspecte que pour... alors le mythe qui s'est greffé, qui s'est élaboré à partir de son personnage, serait que pour atteindre une forme de jeunesse, elle se baignait dans du sang de jeunes femmes, si possible vierges, j'imagine. Hein. C'est toujours mieux, ça marche mieux avec des vierges, je ne sais pas pourquoi. Et donc ce personnage-là, c'est une forme de serial killer qu'on peut peut-être d'ailleurs relier à Gilles de Rais. Mais le problème, c'est qu'en histoire, si on regarde de plus près, il semblerait que ce soit une légende qui a été bâtie et qu'à la base, il n'y a rien de prouvé et que comme la personne en question était assez riche et qu'en plus, le roi de l'époque avait contracté une dette auprès d'elle, il est possible qu'elle ait été un petit peu, voilà, un petit peu mis hors jeu avec une campagne de bashing.
À l'époque.
Elle n'a pas été condamnée, mais enfin, elle n'a pas été condamnée à mort, mais elle a été condamnée à être en résidence surveillée, on va dire, jusqu'à la fin de ses jours. Mais ça fait partie voilà, de ces personnages qui, dans l'histoire, sont comme ça, des gens qui sucent le sang de personnes, soit des plus pauvres, parce qu'il y avait des histoires comme quoi sa famille maltraitait ses serviteurs, soit en tout cas des plus jeunes pour leur tirer, leur extirper leur qualité et les faire siennes.
Alors, il y en a quelques-uns de vampires hein, dans cette série qui vont sucer le sang, notamment des pauvres, hein, de la population. Il y a une autre dimension dans Révolution, c'est le virus, ce sang bleu qui est inoculé aux nobles pour les rendre puissants et immortels.
D'ailleurs, oui, si je peux me permettre, oui, on n'est pas tout à fait dans le vampire à 100%, on est aussi dans l'infecté.
C'est ça.
L'infecté étant une variation du zombie. Parce qu'il y a le zombie qu'on connaît, classique, qui est mort hein, et ressuscité. Et puis il y a l'infecté, qu'on voit plus dans 28 jours plus tard et ce genre d'œuvre. Et là, on est vraiment dans un mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que la figure du vampire se dessine seulement progressivement. Au début, on est plus dans une contagion de type, voilà, comme dans Le Dernier Train Probusant, etc.
Il faut avoir chopé le virus pour devenir un vampire dans Révolution.
Voilà. Hein.
On est dans une série post-Covid. Je ne sais pas comment vous analysez ça, Hugo Bimard, cette dimension médicale.
Oh, je pense que chaque époque aurait pu projeter quelque chose. Dans les années fin 80, début 90, on aurait peut-être pu parler du sida. Il y a toujours un contexte médical qui fait qu'on va, on va projeter des choses sur un mythe, en l'occurrence le vampire.
Ce genre historico-fantastique n'est pas nouveau, Hugo. Les anglo-saxons en raffolent. Vous avez d'ailleurs un point commun avec Margot. Vous avez vu tous les deux un film dont j'ignorais l'existence, et c'est ça.
Et j'ai entendu, pour ainsi dire, un coup de tonnerre. J'ai regardé et j'ai vu la mort qui me disait « Viens voir ». L'histoire préfère les légendes aux hommes. Les discours enflammés aux actes silencieux. L'histoire se souvient des batailles et oublie le sang versé. Si jamais l'histoire se souvient de moi, quand je n'étais pas encore président, elle retiendra seulement une infime partie de la vérité.
Margot, qu'est-ce que c'est que ce film ?
Abraham Lincoln, chasseur de vampires, sorti en 2012. Alors, je l'ai vu parce que j'ai perdu un pari. Hein,
voilà, on est d'accord.
Mais je ne regrette pas. Je regrette pas. C'est vraiment un film hyper intéressant. Donc, l'histoire, c'est Abraham Lincoln qui découvre qu'il y a en fait des vampires qui infestent les États-Unis et qui va les combattre. Mais en fait, derrière ça, c'est surtout une relecture de l'histoire de la guerre de Sécession, qui est un épisode hyper traumatisant pour l'histoire américaine. C'est un peu ce dont vous parliez, Hugo Bimard, quand on imagine qu'en fait l'histoire officielle n'est pas forcément la véritable histoire, qu'il y a une histoire dessous. Mais il y a aussi vraiment, je trouve, une dimension politique. Alors je ne voudrais pas suranalyser un film qui est assez dispensable, on ne va pas se mentir. Mais vraiment, en fait, voilà, la guerre de Sécession, c'est une guerre civile. Et en fait, en remplaçant un petit peu les confédérés, donc les sudistes, par des vampires, On enlève cette dimension-là et on permet de relire l'histoire comme en fait on s'est plus battu contre des créatures horribles et pas contre ses propres concitoyens. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Ah oui, on enlève un peu la dimension humaine aux personnes qu'on a combattues.
Voilà, c'est ça. Et donc la dimension très gênante de cette histoire-là. Je ne sais pas, Hugo Bimard, si vous pensez que ce sous-texte politique, on peut le retrouver dans Révolution.
Ah bah clairement. Là, clairement, oui, ça donne une légitimité à zigouiller tous les nobles et à décapiter la noblesse, puisque la décapitation étant évidemment, par le pieu dans le cœur, le seul moyen de vaincre un vampire, forcément, ça devient la solution parfaite. D'ailleurs, le cœur du pitch est là, c'est ça qui est intéressant, c'est de mettre en relation la surutilisation de la guillotine pendant la Révolution avec la capacité qu'elle a à séparant la tête de son hôte, à mettre fin à la vie éternelle du vampire. Ce Abraham Lincoln devenu Van Helsing, c'est rigolo parce que voilà, c'est exactement là-dedans qu'on pourra parler aussi du pacte des loups.
Oui. Hein,
parce que c'est là-dedans qu'on est. On est vraiment dans du comic books. Et le comic books, ça, c'est pas du tout péjoratif d'ailleurs dans ma bouche quand je dis comic books. Moi j'adore les comics, je lis des comics depuis des années. Et ça a cette capacité à mélanger dans un shaker les influences historiques, les influences littéraires, etc. Et faire un gros gloubi-boulga de tout ça, dont il sort des choses parfois super évidentes d'intelligence et de pertinence, et puis parfois des choses un petit peu moins pertinentes, mais bon.
Oui, mais alors c'est tout à fait le point que je voulais aborder avec vous, parce qu'on sent d'ailleurs ces œuvres de fiction, et Révolution en est l'exemple, le poids de ce qu'on appelle la culture geek et du jeu vidéo notamment. On parlait d'Assassin's Creed tout à l'heure, difficile de ne pas y penser quand on regarde, ne serait-ce que le traitement de l'image, il y a beaucoup d'images de synthèse notamment. Est-ce que ça... Qu'est-ce qui... Vous tiquez, Hugo Bimard.
Non, mais non, c'est parce qu'il y a ce plan de la ville en synthèse, et qui sent beaucoup la synthèse, et qui est utilisé, réutilisé, et qui est assez, je trouve, assez différent de ce qu'il y a ensuite dans les rues, et ça manque de lien un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a toujours ce plan-là qui revient tout le temps, avec la prison au milieu. Mais sur l'aspect graphique et, on va dire, visuel, j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais
est-ce que cette culture geek, elle a transformé l'écriture des séries, d'après vous ? Est-ce qu'on a vu apparaître de nouvelles séries grâce à ça, ou grâce ou à cause, si on n'aime pas cette culture-là, mais est-ce que ça a changé quelque chose ?
En fait, en France, on n'est pas très mélange des genres. Traditionnellement, dans les pays anglo-saxons, leur référence absolue en termes de dramaturgie, c'est Shakespeare. Shakespeare, c'est du mélange des genres. Dans Shakespeare, il y a de l'humour, il y a de la magie, il y a des combats, ça pète, ça explose, ça, etc. Il y a vraiment de tout, et c'est le modèle de l'entertainment, on va dire, à l'anglaise, et donc, par extension, à l'américaine. En France, on a plus une tradition au niveau du théâtre qui est celle de la comédie de mœurs, avec Molière. Donc voilà, Shakespeare versus Molière. On en revient toujours un peu à ça. Même si il y a toujours une exception, à savoir l'univers vernien, Jules Verne, qui a inspiré Méliès, etc. Donc il y a aussi quand même une tradition un peu plus genresque, on va dire, en France. Mais malgré tout, on reste assez, le théâtre classique, unité de temps, de lieu, etc.
D'où d'ailleurs des séries assez classiques comme Les Rois Maudits, ou même Versailles, qui est une version plus moderne de l'histoire de France, mais on est quand même dans du récit très classique.
Oui.
L'apparition de vampires, en termes de série, on parle du Pacte du Loup après, mais c'est vrai que...
Alors, le Pacte du Loup, par contre, c'est vraiment un essai de divertissement à la geek, de geek français. Mais donc, cet univers geek, malgré tout, on est en plein dedans en France depuis pas mal de temps, et les gens de ma génération, et des générations suivantes, qui ont baigné là-dedans, sont de plus en plus amenés à créer, à apporter leurs propres œuvres, et donc ce côté geek ressort de plus en plus, à mon avis, il va être là de plus en plus présent.
Quand vous dites des gens de ma génération, il faut vous préciser pour les gens qui nous écoutent, quelle génération vous êtes.
On va dire les quadras.
On va dire les quadras.
Ceux qui ont grandi avec...
Avec quoi ?
Avec les mangas, avec ça commence un peu avec Star Wars, et puis ça se prolonge jusque Dragon Ball et compagnie.
Enfin, c'est là où je m'aperçois que j'ai quelques années de plus que vous. Margot, oui.
Non, mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, si on regarde co-créateur de la série, Aurélien Mola, justement, c'est plutôt un de la jeune génération, ouais. Et il a fait avant une série pour Arte qui s'appelle Une île où il y avait aussi un mélange des genres, et il reprenait aussi une figure fantastique qui était en l'occurrence celle de la sirène. Et c'est intéressant de voir que c'est ce mec-là qui a fait d'abord avec la sirène, mais dans un genre beaucoup plus classique, et là qui essaye avec Révolution d'aller finalement, je pense, un peu plus loin dans cette idée-là et ce mélange des genres.
Margot, s'il fallait retenir un argument pour regarder Révolution, ce serait lequel ?
Ben, moi, je trouve que le principe d'une série, c'est quand même d'essayer de vous accrocher épisode après épisode. Et ça, il faut bien avouer que ça, enfin, avec moi en tout cas, ça a fonctionné. J'ai trouvé que c'était une série qui est loin d'être parfaite, mais il y avait quelque chose qui faisait que j'avais quand même envie de regarder. Et puis, c'est vrai que je suis peut-être un peu sensible aussi à cette volonté d'essayer. Je trouve ça intéressant. C'est une série qui est quand même originale, notamment pour une série française.
Mais c'est un peu ça le problème, c'est que c'est original pour des Français, et uniquement pour des Français. Et voilà.
Ça ne peut pas faire un seul argument, on est d'accord. Mais est-ce que vous auriez un autre argument pour la regarder, cette série Révolution, Hugo Bimard ?
Je rejoins tout à fait le fait qu'en effet, ça, on a envie de regarder parce que on attend. On est en attente depuis longtemps en France de enfin tomber sur une série qui soit à la hauteur. Alors, à la hauteur de ce que font les Américains, c'est difficile pour des raisons
budgétaires, notamment.
Principalement budgétaires, mais pas que.
Oui.
Pas que. Il y a aussi d'autres problèmes. Mais bon, quand on voit que les Anglais font des choses souvent étonnantes, ou que même aujourd'hui, de plus en plus, les Allemands se mettent à faire des choses aussi impressionnantes, on se dit, et nous, on attend. Ou les Espagnols aussi. Et depuis longtemps, parce que le monde geek dont je parlais en Espagne, il s'est développé avec Alex de la Iglesia et plein de gens depuis maintenant 30 ans. Et donc en France, on attend d'avoir une série qui soit vraiment à la hauteur de tout ça. et notamment sur Netflix, parce que Netflix a cette politique de vouloir développer des projets dans chaque pays. Il y a eu Marianne, la série horrifique, oui. Et de la même façon, moi j'ai regardé Marianne en me disant, alors, est-ce que les Français vont pouvoir... Et Marianne avait des qualités, des problèmes aussi, que je retrouve d'ailleurs un peu dans La Révolution. Mais en tout cas, pour ce qui est par exemple des scènes de flip, des scènes
effrayantes
ouais, ouais. Ben, ça marchait plutôt pas mal, Marianne. C'était assez, assez efficace. Même si ça a reposé sur des ficelles connues et qu'on avait déjà vues dans pas mal de films, notamment américains.
Et Révolution, alors, et pour alors, revenir à Révolution.
Pour ce qui est de Révolution, ben oui, donc c'est ça, c'est l'envie de voir à quel point on peut se mettre à la hauteur des séries anglo-saxonnes. Et le fait est que, d'entrée, il y a cette première scène d'intro, ce prologue à la série, qui met la barre assez haut.
Grâce à l'esthétisme, hein, pour expliquer.
Oui, avec, visuellement. Alors, c'est...
Très, très visuel.
Les réalisateurs viennent pratiquement tous de la publicité. En tout cas, le réalisateur des trois premiers épisodes vient clairement de la publicité. Et dans ce prologue, on sent l'influence de la pub. Les plans sont beaux, ils sont très esthétiques. C'est la neige, un cheval qui marche, un vampire donc au sang bleu, puisque vous l'avez compris, la maladie se traduit et se trahit par ça, par la colorisation du sang. Donc un vampire vient de faire une victime, donc un être humain, avec sur le fond de neige blanc du sang rouge éclaté. Mmh. Il se fait descendre par donc un personnage à cheval, et son sang bleu éclate également, et on se retrouve avec donc un éclat de sang bleu,
la
neige blanche, oui. Et un éclat rouge, bleu, blanc, rouge. Et voilà, ça pose très bien le contexte, la thématique, c'est super. Et après ce prologue, qui ressemble donc à une belle pub, on va dire, superbe pub, et ben la série commence.
Alors la symbolique du bleu, blanc, rouge, d'ailleurs, on va la retrouver tout au long de la série. Moi, c'est ce que j'ai assez aimé, en fait, c'est qu'il y a plein de petits... alors, soit des anachronismes, ou soit des éléments qui ramènent quand même à l'histoire de France, qui sont disséminés comme ça tout au long de la série. On est presque dans un jeu de piste, un peu à la Sherlock, on essaye de retrouver tous ces indices. Moi, j'ai trouvé ça assez amusant. Pour moi, c'est une très bonne série de divertissement. Voilà. J'en attendais peut-être un peu plus sur le côté historique. Je pensais qu'au départ, c'était une série historique. Je n'avais pas compris qu'il y avait des vampires qui allaient arriver. Je l'ai vite compris, hein, pour tout vous dire, au bout de 10 minutes, vous comprenez qu'il y a quand même quelque chose d'un peu d'étrange. Et la musique vous met bien dans l'ambiance, d'ailleurs. Hugo, d'ailleurs, on peut se demander si ces histoires de vampires, elles ne permettent pas aussi de donner une autre dimension à ce qu'on appelle les séries historiques, qui ont souvent des budgets pharaoniques, notamment pour deux raisons. Parce que qui dit série historique dit décor et dit costume. Essentiellement, je parle de la forme. Je pense à Rome, par exemple.
Écoute-moi, je t'ordonne de me libérer à l'instant.
Tu parles bien pour un esclave. Tu risques de ne pas aller bien loin.
Je ne suis pas un esclave. Je suis Caius Octave Julii, petit-neveu de César.
Caius qui ?
Je suis un citoyen romain de sang noble et je t'ordonne de couper ses cordes.
S'il te plaît.
S'il te plaît.
Rome, 2 saisons et 22 épisodes et quelques traits d'humour, c'est à voir sur MyCanal. Je crois que vous avez beaucoup aimé cette série, Hugo Miard.
J'adore cette série. Pour moi, c'est le summum de la série historique. On est quelques années après Gladiator, qui a remis l'Antiquité un petit peu sur le devant de la scène. Et on est vraiment à ce moment charnière où les séries vont vraiment devenir le lieu d'expression des scénaristes. C'est là où ils vont pouvoir vraiment développer des personnages, développer des intrigues. Ce que le cinéma va de plus en plus renoncer à faire pour devenir du roller coaster. Et les blockbusters d'aujourd'hui, d'Hollywood, Marvel et autres, ont leur qualité, mais c'est pas là où on a des personnages travaillés psychologiquement.
Et là, dans Rome, oui.
Et la voix du petit Octave, futur Auguste, là qu'on entend, c'est excellent. Et c'est bourré de petites allusions historiques qui sont très fines, très très fines.
C'est vraiment très très réussi, on vous la conseille.
Et c'est l'une
énormément.
Des séries qui coûtait extrêmement cher pour
c'était
l'époque.
Le record.
C'était un record. Et ouais. Aujourd'hui, quand on voit ce que HBO est capable notamment de mettre sur la table, on se dit qu'on pourrait avoir de nouveau des séries comme ça, plus longues, ouais. Parce qu'il me semble que s'ils ont arrêté au bout de 2 saisons, c'était aussi parce que...
Pour des raisons budgétaires.
Le budget était...
Avec une 2e saison de seulement 10 épisodes.
Oui, exact. Magali Buteau, autre sérivore de l'équipe de Sériland, elle est partie à la rencontre de Christophe Thiollier. Il est décorateur d'une série française historique qui s'appelle La Commanderie, qui date de quelques années déjà. Et il évoque notamment l'importance du rôle du décor.
Nous, décorateurs, enfin, en tout cas moi... j'envisage mon travail comme un ambianceur, c'est-à-dire que Les comédiens, il faut qu'on les aide dans leur travail. Partout, ils vont poser les yeux, ça va les mettre encore plus dans leur rôle. Donc oui, bien évidemment, on essaye d'être un reflet de leur personnage.
Alors, dans Révolution, il y a un vrai château, celui des nobles. Et puis, en revanche, donc, on en parlait tout à l'heure, le village surmonté d'un autre château, une prison dans lequel vivent les pauvres, est en image de synthèse. Et alors, contrairement aux décorateurs qui ne sont pas spécialisés pour une époque précise, moi, je pensais qu'il y avait peut-être des gens qui étaient vraiment typiquement rattachés à une époque, à une période. Les costumiers, eux, le sont. Ils sont vraiment experts d'une période historique. Et à propos de costumes, notre sérivore Clémence, elle, a trouvé une histoire croustillante.
Clémence Olivier, agent coulisses de Sériland.
Puisqu'il est question de séries historiques, j'avais envie de vous parler d'un élément essentiel pour nous transporter dans le passé, le costume. Et une série l'a bien intégré, c'est Downton Abbey. Cette fiction en 6 saisons, c'est un classique. Une série historique avec une bonne dose de romance et un humour anglais caractéristique que je ne saurais que vous recommander. De 2010 à 2015, elle met en scène la vie d'une famille d'aristocrates, les Crawley, et leurs domestiques au tout début du XXe siècle. Et pour coller au style britannique de l'époque, le créateur, Julian Fellowes, a fait en sorte que ses costumes soient les plus authentiques possibles. Vous vous en doutez, il s'inspire donc des modèles du XXe siècle, la mode post-édouardienne dans la première saison, les robes des années folles avec franges et paillettes dans les suivantes. Mais attention, les costumières ne se sont pas contentées de fabriquer des copies. Elles ont été jusqu'à utiliser des tissus d'époque pour le grand déplaisir des acteurs et des actrices. Pourquoi ? Car copier l'ancien ne suffit pas. Le créateur de la série est un perfectionniste. Il veut qu'un maximum de tissus soit d'origine. Mais le problème avec ces tissus, c'est qu'ils sont fragiles et donc qu'ils ne se lavent pas. Cette anecdote, c'est l'une des actrices, Sophie McShura, elle joue l'aide-cuisinière Daisy, qui l'a racontée au Daily Mail en 2013. À l'époque, la costumière de la série durant les premières saisons, Susanna Buxton, interdit que la première tenue de la domestique, un ensemble à fines rayures roses et une blouse beige, soit nettoyée. Laver la robe, même à sec, c'est prendre le risque d'abîmer les tissus anciens utilisés pour la fabriquer. Surtout, l'œil avisé du spectateur pourrait s'offusquer d'un tablier trop propre. Alors que dans les années 1910, peu de domestiques s'offrent le luxe de laver régulièrement leurs toilettes. Bref, pour que la tenue soit crédible, historiquement authentique, elle se doit de rester sale, imprégnée de taches de gras et de transpiration. Et tant pis si l'actrice doit la garder pendant 2 saisons.
Vous vous habituerez vite à notre façon de faire.
Si vous entendez par là que mes habitudes diffèrent des vôtres, alors oui, vous avez raison.
Quand on joue les aristos dans Downton Abbey, les contraintes sont un peu différentes. Sur le tournage, les actrices changent bien plus régulièrement de tenue que celles qui jouent les domestiques. C'est ainsi que vivait l'upper class britannique. Mais les vêtements, lourds pour certains, hyper fragiles pour d'autres, ne sont pas toujours faciles à porter. Et ils ne sont pas non plus lavés.
Resterez-vous pour le dîner, maman ? C'est un buffet.
Mais je ne me suis pas changée.
Il suffira d'ôter votre chapeau.
À t'entendre, on pourrait croire que c'est facile.
En fait, seules les pièces les plus robustes sont nettoyées à la main et séchées à plat, comme cela aurait été fait au début du XXe siècle. Alors, pour éviter les odeurs et offrir aux actrices davantage de confort, la costumière a trouvé une astuce. Elle a fait coudre des patchs en tissu sur les robes des comédiennes, juste au niveau des aisselles. Et ce sont ces patchs qui sont régulièrement nettoyés. Comprenez bien, reconstituer une robe à partir de tissus anciens ou l'acheter toute faite, c'est dans tous les cas un investissement. Par exemple, il faut compter jusqu'à 2000 euros pour une robe des années 20 d'origine. Alors pour que les coûts soient aussi maîtrisés que la meringue aux framboises de Madame Patmore, les costumières ont trouvé une autre solution. Elles ont choisi de louer une partie des costumes. Et pour la petite histoire, vous pourrez dans la saison 3 voir Lady Mary porter la même robe rouge style année folle que celle portée par Catherine Zeta-Jones dans le thriller historique « Au-delà de l'illusion », sorti en 2007.
Maintenant que vous avez envie de regarder cette série, on va quand même vous dire où vous pouvez la trouver.
Downton Abbey, c'est une série en 6 saisons et 52 épisodes. Elle est disponible sur Amazon Prime Video.
Hugo Bimard, votre web-série Confession d'Histoire est en costume.
Oui.
Est-ce que vous avez lavé les costumes ?
Les tournages ne durent pas longtemps, donc on n'a pas beaucoup, l'occasion de les salir.
Ça veut dire non, ça.
Je crois qu'il les a rendus sales.
On les rend sales, mais pas trop, parce que sinon, on nous facture, les loueurs facturent de l'argent en plus. Non, mais par contre, je voulais dire quelque chose, c'est qu'il y a un truc qui marche très très bien, c'est de pchiter de la vodka.
C'est-à-dire ?
Ça vous mettez de la vodka dans un petit pchit-pchit, là, oui. Vous voyez, avec, comme pour les glaces, etc.,
oui,
pour
oui.
Les plantes, et vous pchitez les costumes. Ça désinfecte, ça enlève les odeurs, ça nettoie en partie, ça marche très bien. Et ça n'abîme rien.
Et ça
n'abîme
pas une autre odeur qui est celle de
la vodka. La vodka n'a pas d'odeur.
D'accord. Margot, je vous propose d'aller sur le prochain tournage de Confessions d'Histoire avec Hugo Bimard.
Pour ce qui est de l'historicité des costumes, je peux pas trop parler parce que je prends des libertés, on va dire, sur Confessions d'Histoire. Il y a de tout. Il y a des fois des costumes qui sont très historiques, avec validation notamment de reconstituteurs, et d'autres où je me lâche un peu plus et où je fais des trucs, voilà, un petit peu plus.
Comme dans toutes les séries, je pense, Margot.
Oui, et comme dans La Révolution. Et moi, pour le coup, c'est un des trucs qui m'a plu. J'ai trouvé ça pas mal. À première vue, on dirait que c'est des costumes historiques. Et en fait, notamment les femmes portent des vêtements hyper modernes. La blouse d'Élise, le personnage principal, est assez moderne. Et leur coiffure, en fait, elles pourraient très bien les porter aujourd'hui. Elles sont à la fois d'époque et pas vraiment d'époque. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est un twist avec l'histoire qui fonctionne vachement bien.
Oui, il y a un côté pop culture, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, Élise, donc le personnage principal féminin, porte des pantalons aussi.
Oui.
Au début, on
le voit
et c'est assez surprenant parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça. On voit qu'ils se sont un peu amusés, enfin beaucoup même, avec l'histoire. Hugo, Margot, on se nourrit de séries au quotidien, hein, tous les trois, et notamment de séries qui se jouent de l'histoire. Hein. On aurait pu parler aussi de Versailles, de Kaamelott, si on va dans un autre genre, dans un genre plus humoristique, mais aussi The Crown ou les Tudors. Margot, ton choix se porte en l'occurrence sur un personnage historique, une femme, et une série très décalée.
Oui, comme La Révolution, c'est aussi une série qui joue avec l'histoire, qui la prend comme décor, comme prétexte, mais assume de s'en éloigner et de faire des pas de côté. Ça s'appelle The Great, c'est diffusé sur la plateforme Starzplay, et nous voilà partis au XVIIIe siècle, à la cour impériale de Russie. Alors c'est là que Catherine II, la Grande, The Great, donc, a régné pendant 35 ans. Mais avant d'être impératrice, Catherine n'était que la femme de l'empereur Pierre. Et c'est ça que raconte la série, l'histoire d'une toute jeune fille qui arrive à la cour pour être mariée avec un homme qu'elle n'a jamais vu. Elle est fleur bleue, déjà pleine d'amour et de bonne volonté, mais leur première rencontre ne se passe pas vraiment comme elle l'avait imaginé.
Je vous prie d'accepter ce rameau d'épicéa. C'est un arbre à feuilles persistantes, le symbole, j'espère, des sentiments que l'on éprouvera l'un pour l'autre.
Elle m'offre une brindille. Elle n'est pas demeurée, rassurez-moi.
Il ne m'en a pas été fait mention.
Je tenais à vous remercier pour votre lettre, pleine de sentiments nobles et poétiques.
J'ai écrit une lettre ?
Nous avons griffonné deux ou trois mots à la...
Voyez-vous ça ?
J'espère que je ferai votre bonheur.
Oh, vous êtes parfaite. Je veux que ma femme soit une aristocrate, mais il ne faut pas que sa famille soit trop puissante ou trop influente. La vôtre est dans la merde, apparemment. Vous avez une drôle d'odeur, est-ce une habitude ?
J'ai fait un long voyage.
J'espère que c'est ça.
Pierre accepte quand même de l'épouser, mais la première impression ne trompe pas. Le grand empereur de la Sainte-Russie est un goujat, alcoolique, obsédé par le sexe et la vodka, complètement inculte et surtout dénué de tout sens politique. La jeune Catherine, elle, a lu Rousseau. Elle aimerait ouvrir une école pour les femmes et le pays aux idées des Lumières. Et ça semble plutôt mal barré.
J'aimerais être utile à l'Empire de Russie. Contribuer à sa grandeur.
Vous allez porter mes héritiers. Vous êtes déjà utile.
Je pourrais participer à l'éducation de la cour. Il y a un extraordinaire foisonnement d'idées en France.
Et il y a un foisonnement de cas de syphilis à Kiev.
Pardon ?
C'était une boutade. Vous êtes extrêmement lente d'esprit.
Je me demandais si je pouvais fonder une petite école à la cour.
Seulement si vous arrêtez d'être assommante.
Commence alors à germer dans l'esprit de Catherine une idée folle. Puisque le trône de Russie n'est pas une lignée, qu'il ne revient pas forcément à l'héritier, s'il n'y en a pas d'évident, mais à la femme de l'empereur, pourquoi ne pas tenter sa chance et un coup d'état ? La révolution, The Great respecte une trame historique. Après tout, Catherine II s'est bel et bien débarrassée de son empereur de mari afin de prendre sa place, c'était en 1762. Mais pour le reste, la série prévient, dès le début de chaque épisode, elle n'est qu'occasionnellement appuyée sur une histoire vraie. Et le registre est bien plus volontiers, vous l'aurez compris, comique historique. Un humour pince sans rire, très trash parfois. Les deux acteurs principaux, Elle Fanning et Nicolas Hoult, s'en donnent à cœur joie et ça se voit. Mais ce n'est pas parce qu'on rit qu'on ne réfléchit pas. La série est éminemment politique, puissamment féministe. La jeune Catherine refuse en fait la place de potiche qui aurait dû lui revenir. Elle passe son temps à échapper aux agressions des hommes qui l'entourent et doit rapidement apprendre que la bonne politique n'est rien sans une bonne communication. C'est quelque part entre le Marie-Antoinette de Sofia Coppola et La Favorite de Yorgos Lanthimos. The Great est une expérience cathartique, osée et très réussie.
C'est malin, je vous ai réussi à me donner envie de la regarder. Combien d'épisodes, The Great ?
10 épisodes à voir sur Starzplay.
Ça vous a donné envie, Gobimard ?
Oui, et voilà. Complètement.
Vous en avez pour quelques soirées à cause de Margot, ou grâce à Margot plutôt. Moi, mon choix se porte sur une autre série historique. Je vous recommande Un village français, puisqu'on parle de série française. Alors, pas de monstres ni de vampires dans cette série française créée par Frédéric Krivine, Philippe Tribois et Emmanuel Dossé.
On se bat en Russie, en Nouvelle-Guinée, dans l'Atlantique, on se bat partout. Et ici, tout est si calme.
L'école n'est pas un lieu de détention tout de même. Mais il ne s'agit pas de détention, il s'agit de transit.
On est censé faire ça.
On est censé faire ce qu'on vous demande.
Ce qui est terrible avec les Allemands, c'est que plus on se met en quatre pour leur être agréable, moins ils sont contents.
On est censé aller jusqu'où ?
On n'a pas le choix.
Oh, je la connais cette chanson-là.
Je comprends pas que tu démissionnes alors que tu peux aider ces gens.
Je vois plus comment.
Tu te rends compte que cette entreprise qui porte ton nom collabore de plus en plus ?
Si je découvre que tu mets en danger l'entreprise ?
C'est encore mon entreprise.
Plus pour longtemps.
7 saisons, 72 épisodes pour évoquer la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande. On est dans une sous-préfecture qui est située dans le Jura, mais c'est une sous-préfecture fictive. Tout est faux et vrai à la fois. C'est la psychologie des personnages qui prime sur les événements historiques. C'est quoi l'engagement? Comment des femmes et des hommes sont passés de la résistance à la collaboration et inversement? Comment surtout au quotidien la vie continue avec son lot de drames et de jours heureux? La série est disponible en VOD, je vous la recommande grandement. Et vous Hugo, je crois que c'est une série Netflix dont la nouvelle saison arrive prochainement. D'ailleurs, que vous aimez particulièrement, c'est The Last Kingdom.
Oui, j'aime beaucoup The Last Kingdom, qui est une série donc sur les Vikings, on va dire ça comme ça, même si Viking est un terme impropre. C'est un petit peu le pendant anglais de la série Vikings, justement. C'est une série de la BBC, donc The Last Kingdom. C'est basé sur une série de romans de Bernard Cornwell. Et donc, ça raconte les interactions en Angleterre, ou plutôt dans ce qui sera l'Angleterre un jour, entre ce qu'ils appellent les Danes, et déjà ça c'est intéressant, ils ne parlent pas de Nordman ou de Viking, ils parlent de Danes, ce qui est un terme beaucoup plus pertinent en termes historiques, et donc la façon dont c'est l'invasion de ces peuples, l'arrivée de ces peuples, va remuer le petit monde de ces royaumes, de Northumbrie, de Mercie, du Sussex, etc., et vont petit à petit amener à la constitution de l'Angleterre par l'unification de ces royaumes. Il y a un personnage principal qui est beau gosse, avec son épée dans le dos, donc qui pour le coup n'est pas très histo, qui n'est pas d'ailleurs du tout un personnage historique, mais qui par contre évolue au milieu de la royauté, des chefs de guerre, etc. Donc ça relie la grande histoire. Et c'est un personnage voilà, qui va être un petit peu mal aimé, dont on sent bien qu'il va être effacé de l'histoire officielle, mais qui va agir sans arrêt et qui aura un pied dans les deux mondes, puisque c'est un noble de Northumbrie qui, tout jeune, va être adopté et élevé par des Scandinaves, par des Vikings. Donc.
J'ai vu l'agonie d'un roi, et avec lui son royaume. C'est à toi de commander. Aux traites de Bebbanburg.
La guerre est imminente. En ce moment même, les Danois descendent en nombre vers le sud. Une fois que je m'en serai allé, mon fils aura besoin de vous, Outred.
La santé du roi, elle se dégrade.
Si la rumeur se répand, les ennemis du Wessex pulluleront.
J'offre le désordre et la déloyauté envers Alfred.
Le royaume du Wessex capitulera vite. À la victoire.
The Last Kingdom est à voir sur Netflix. Merci beaucoup Hugo Bimard de nous avoir accompagnés pour cet épisode de Sériland, largement consacré à La Révolution, la nouvelle série française de Netflix, dont la première saison compte 8 épisodes. Vous pouvez découvrir les épisodes de l'excellente web-série d'Hugo Bimard Confession d'Histoire sur sa chaîne YouTube. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série que nous aimons. C'est Christina dans Grey's Anatomy qui a quelques mots pour vous. Il me faudra plus qu'un mauvais rêve pour me forcer à fuir. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Sériland vous attendent. Il sera question de casting, d'actrices et d'acteurs, et pas seulement, et tout ça grâce à la quatrième saison de 10% qui arrive sur France 2. Sériland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par une fée, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Tristan Barrault. Si cet épisode vous a plu, écoutez le suivant qui arrive très vite. Et puis surtout, je compte sur vous pour en parler, commenter, nous dire aussi quelles sont vos séries préférées. Rendez-vous sur le groupe Facebook Sériland. Attention, vous le savez, dans Sériland, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.